Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-d'Orouergue.
Bonjour à tous, c'est Lis des livres saison 2 sur CFM. Nous reprenons le rendez-vous littéraire après les fracas de la rentrée pour vous parler de nos prix à nous, de ces livres qui ont du prix dans nos cœurs. Nous les aurons lus et nous les aurons aimés et vous le saurez. Donc nous serons rediffusés le samedi à 18h. Non, diffusés le samedi à 18h et rediffusés le mardi à 12h35. Alors c'est avec Monique. Bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Que je vais partager cette parole et nous alternerons une semaine sur la littérature adulte, roman policier, auteur. Et la semaine suivante, ce sera consacré plus à la littérature jeunesse ou éventuellement à des BD qui nous auront plu, en fonction de nos enthousiasmes, bien sûr. Bien sûr, Joël.
Bonjour.
Bonjour Joël, de la librairie La Folle Avoine. Alors, il nous accompagne tout au long de nos émissions pour une chronique, anachronique souvent, sur des personnages qui sont des figures incontournables de la littérature, en général début 20e.
Voilà. Oui, ou fin 19e.
Ou fin 19e. Aujourd'hui, nous avons choisi un auteur contemporain avec Monique, Marilyn Desbioles, qui est particulièrement chère à mon cœur, je dois dire. Moi, je suis toujours en train de défendre ses livres. Et son dernier donc est paru en septembre 2015 à la rentrée littéraire. On n'en a pas énormément parlé sur les ondes. Enfin, France Culture a fait beaucoup d'émissions pour elle. Mais bon, au niveau du papier, il n'y a pas eu énormément de papiers qui sont sortis. Et c'est pour ça que je pense que c'était important qu'on vous en parle. Son livre s'appelle « Le beau temps ». C'est une romancière qui a obtenu le Féminin en 99 pour Anchise et elle figurait encore cette année dans la sélection du Prix Médicis. Alors elle est née à Ougine, donc dans le sud-est de la France en 1959 et elle est très attachée à Nice où elle a fait ses études. Le beau temps, évidemment c'est un livre gorgé de soleil à cause d'une écriture qui s'attache aux sensations, au visuel et au tactile. Et elle a toujours eu cette capacité à donner à l'insignifiant des saveurs particulière et unique. Contrairement à ses précédents romans, où il n'y avait pas vraiment de héros au sens propre, celui-ci dégage et s'intéresse à Maurice Jaubert, qui est un musicien-compositeur, né en 1900. Mais il faut avouer qu'avant ce livre, j'en avais jamais entendu parler, moi. Je pense que je fais partie de la majorité. Mais il a pourtant été repris il y a peu par Benjamin Biolay et Valérie Lagrange dans la chanson de Tessa. Alors celle-là, on peut l'entendre sur YouTube, elle est en numéro 1. Et donc Marilyn Desbioles, elle a choisi cet homme parce que je pense qu'effectivement, il devait retrouver la lumière. Et le titre du livre, il n'est pas innocent à cause de ça. Il est né en 1900. C'était un jeune avocat de France, le plus jeune avocat de France à 19 ans. Il est issu d'un milieu bourgeois, et encore, on va encore utiliser un mot lumineux, mais un milieu bourgeois éclairé. Et c'est important parce qu'en fait, il était destiné à faire une carrière entre guillemets bourgeoise, il allait être avocat, etc. Puis en fait, non, lui, il va choisir la musique. Et c'est pareil, au niveau musical, il n'a pas eu une éducation académique, parce qu'à l'école, à Nice, il n'y avait pas d'école de musique. Et lui, il a d'ailleurs décroché le premier prix de piano de Nice. Bon, et ce livre, après, déroule la vie de Jaubert jusqu'à sa mort en 1940, en nous faisant rencontrer toutes les grandes figures de l'époque, artistiques et politiques. Et on peut dire que c'est un livre qui est poétique, politique et...
Policier.
Oui, on peut. Oui, parce qu'elle mène une petite enquête pour savoir comment il est mort. Voilà. Et bon, donc je crois savoir que, Monique, tu l'as beaucoup aimé aussi.
Oui, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et justement, tu parlais. Alors peut-être ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, il est devenu connu par ses musiques de films, parce que c'était un compositeur et il a composé les musiques de films de Jean Vigo, René Clair, Marcel Carné, Hôtel du Nord, Quai des Brumes, voilà. On a sans doute oublié le musicien, mais il y a certaines répliques de ces films cultes qu'on n'a pas vraiment oubliées. Et certains visages non plus. Voilà, alors donc, Marilyn Débiol, si vous lisez Le Beau Temps et si vous aimez bien Le Beau Temps, moi je vous conseille de lire Dans la route, que j'ai beaucoup aimé aussi, parce que tu disais tout à l'heure, elle a l'art, Marilyn Débiol a l'art de... comment dire, s'emparer de quelque chose qui est tout à fait anodin, qui est tout à fait quotidien, pour écrire dessus. Et là, en fait, c'est une route. C'est l'axe central de ce récit, c'est la route. Une route qui est un chantier. Une route qu'elle connaît bien parce qu'elle l'emprunte tous les jours. Et cette route qui a très longtemps été la seule à relier Nice à Turin, à l'Italie, pendant des siècles. Et donc, elle focalise son regard sur cette route-là. Et puis, voilà, elle imagine, elle crée toute une vie autour de cette route. Alors, l'histoire collective, puisque c'était la route des contrebandiers, la route des soldats pendant la guerre, pendant les deux guerres mondiales même, la route des morts, la route des accidents. Un jeune homme est tué sur cette route. Et puis, l'histoire des petites gens qui habitent autour, Sasso, La Thomas, Gabi. Voilà, elle donne la parole à ces gens-là qui sont parfaitement anonymes. Oui. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là parce que elle commence comme ça. Au début, on était au bord. Et effectivement, on est au bord de la route. Et en même temps que les ouvriers qui creusent pour faire un nouveau rond-point sur cette route, on rentre dans la route. Et à la fois dans l'histoire de la route et dans l'histoire des personnages qui sont autour.
Alors, voilà. Pour illustrer la musique de Jaubert, on va vous faire écouter un extrait du film Hôtel du Nord. Et vous entendrez la musique de Jaubert qui démarre sur les bruits de fond du film. Et c'est quand même une des caractéristiques de sa musique, de s'attacher justement au bruit de la rue, au bruit des choses, pour vraiment s'enclencher, s'insérer dans l'image, etc. Donc, écoutons.
Et après?
Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire.
Fataliste.
Si tu veux le résultat elle-même. Pourquoi tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux?
Non.
T'en es sûr?
Oui.
T'aimes pas notre vie?
Tu l'aimes, toi, notre vie?
Ou bien, je m'y suis habituée. Coquard mis à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors?
Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie.
À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux.
Partout où on ira, ça sentira le pourri.
Allons à l'étranger, aux colonies.
Avec quoi?
Cette idée.
Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et mon atmosphère, c'est quoi?
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Ici, l'atmosphère, c'est un drôle de bled. Oh là là, les types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la marraine. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Maintenant, c'est fini.
Quoi donc?
L'hôtel du Nord.
Voilà, donc c'était Hôtel du Nord avec la musique de Jaubert qui est proche des bals musettes presque. Hein. C'est très valsé. Donc c'est un livre qu'on vous conseille, Le beau temps, la beauté du pays niçois est omniprésente et vous aurez envie de revoir la faune des le jaune des Genêts, la chambre verte de Truffaut, parce qu'il y a Jaubert qui apparaît d'ailleurs dans la chambre verte de François Truffaut. Elle en parle dans son livre, elle parle de films, elle parle de peinture, elle parle de plein de choses. Et Joël, qui a l'esprit d'à propos, nous a proposé aujourd'hui une chronique sur Paul Nizon, qu'elle cite dans son livre en disant « La plaisanterie a assez duré, la confiance a assez duré, et la patience et le respect ».
Oui, ça ressemble bien à Nizan, surtout quand il envoie sa lettre de démission à Jacques Duclos en 1939, après le pacte germano-soviétique. Le regret qu'on pourrait avoir...
C'est la démission du Parti communiste.
Du Parti communiste, ouais. Ouais. Le regret qu'on pourrait avoir, c'est que Paul Nizan n'ait pas encore trouvé d'ébiole pour faire sa biographie, parce que sa vie est suffisamment riche de rebondissements, de romanesque et surtout de rectitude depuis le début. Paul Nizan est né en 1905, un autre point commun avec Jaubert, et il est mort en 40 aussi, en août 40, alors que Jaubert est mort en juin 40.
Oui, lui, pendant, il est un peu avant, je crois. Il est mort un peu avant.
Pendant la guerre, donc Nizan est mort dans le Pas-de-Calais. Et donc, ce qui signifie qu'il était dans l'armée. Donc, il est né en 1905 d'un père ingénieur dans le chemin de fer. Donc son grand-père travaillait dans le chemin de fer aussi, mais plutôt proche des ouvriers. Et il a eu l'impression qu'il était passé de l'autre côté, c'est-à-dire du côté, ce que vous avez appelé tout à l'heure la bourgeoisie, en tout cas de la petite bourgeoisie. Il n'était plus du côté du prolétariat. Et on a l'impression que tout au long de sa vie, il a essayé de rejoindre le prolétariat, ce qu'il a fait en 1927 en rentrant d'Aden après un voyage. Il est rentré au Parti communiste et c'était sa façon à lui de rejoindre le prolétariat en militant. Donc j'ai parlé. Il a suivi des études tout à fait logiques dans la petite bourgeoisie, c'est-à-dire la préparation d'école normale, préparation normale sup. À Louis le Grand, il a rencontré Jean-Paul Sartre et Raymond Aron. Ils se sont retrouvés à intégrer ensemble l'école normale supérieure. Et ce passage dans l'école normale supérieure, il va le raconter dans un ouvrage qui est là aussi tout à fait d'actualité, qui s'appelle La Conspiration. Il raconte cet épisode et il raconte surtout le transfert des cendres de Jaurès au Panthéon, où les gens de l'école normale, les élèves de l'école normale sont invités. C'est là qu'il rencontre Plum pour la première fois et qu'il trouve que ses dirigeants ont de drôles d'air et de drôles de poignées de main. Donc, c'est d'actualité parce qu'on a beaucoup parlé de ces transferts des cendres l'année dernière, pour le centenaire de l'assassinat de Jaurès. Et ce serait intéressant de confronter tous les récits qui ont eu lieu actuellement avec celui de Nizan. Nizan, donc, à la sortie de l'école normale supérieure, pas tout à fait à la sortie, mais il demande, il comprend plus, il est en révolte contre ses professeurs, il sait pas ce qu'il va faire, il sait pas, il est amoureux, il a rencontré Henriette déjà, mais il lui a pas dit, elle le sait pas, elle n'est pas sûre, et puis finalement il décide de partir. Il décide de partir et il a une opportunité, il peut faire précepteur d'un jeune homme à Aden, en Arabie. Et là, il va y aller, et donc s'ensuit une correspondance amoureuse magnifique avec Henriette, où tous ces problèmes de cet âge-là, il part en 1925, donc il a 20 ans, et c'est la phrase célèbre, hein, qui est connue de tous et qui est vraiment une phrase qu'on peut toujours dire, j'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Il commence son livre Aden Arabie comme ça. Ça va être évidemment un pamphlet puisque c'est un livre de révolte, un livre de jeunesse. De révolte d'abord contre ses maîtres et puis surtout contre la situation. Parce que d'abord, c'est ses débuts de journaliste. Quand on voit sa description du voyage, il y a toute une réflexion sur le voyage dans toute la première partie du livre. Et puis il arrive à Aden, et là c'est la découverte de l'esclavage, de l'impérialisme et de l'oppression. Et c'est peut-être le début de la mondialisation entre le rôle du pétrole, etc. Donc ça, c'est Aden Arabi. Et quand il rentre, après ce voyage à Aden, il finit ses études, il passe l'agrégation de philo et il est nommé professeur à Bourg-en-Bresse. Après une année de professorat, il va rejoindre l'Humanité et le journal L'Humanité et devenir journaliste. Voilà. Donc, à Bourg-en-Bresse, là, il adhère au parti, il milite, il se présente même aux élections législatives. C'est un échec, il a 3% de votants pour lui. Donc, il va trouver une autre moyen de rejoindre la classe ouvrière, ça va être le militantisme par l'écrit. Et il a une œuvre écrite absolument impressionnante. Il a écrit dans toutes sortes de revues, il a même dirigé une revue. Alors, ce qui est arrivé par la suite, et j'en ai parlé tout à l'heure, sa façon de démissionner du Parti communiste.
À cause du pacte germano-soviétique.
À cause du pacte, de sa lettre de démission. Ça a été un événement dans sa vie et surtout dans sa postérité, puisque à partir de là.
Il a été sali.
Il a été calomnié, surtout. Et surtout, ce qui est plus grave, c'est que son œuvre a quasiment disparu. C'est-à-dire, il n'a pas été réédité. Et, justement, il a été réhabilité en quelque sorte après la guerre de 39-45 par des intellectuels qu'il avait côtoyés, qui étaient ses amis et qui ont fait en sorte de faire connaître ce qu'il avait écrit, ce qui est une très bonne chose parce que c'est magnifique. Donc je vous ai parlé d'Aden Arabi, c'est un livre qu'il faut absolument relire, qui est toujours disponible. Mais il y a aussi La Conspiration, qui est un ouvrage donc biographique. Il y a Antoine Bloyer, qui est la vie de sa famille. Et puis surtout, Le Cheval de Troie, qui pourrait être classé dans la littérature prolétarienne, puisque c'est son expérience de Bourg-en-Bresse qu'il développe dans ce livre-là. Mais toute cette partie-là, je crois, sa réhabilitation, je vous en parlerai lors de la prochaine émission. Et voilà, je vous remercie d'abord, mais c'est dommage, je ne m'appelle pas Débiol. J'espère qu'il en trouvera un, parce qu'encore on n'a pas, Henriette a beaucoup à publier ses lettres, mais on n'a pas tout. Voilà. Et je vous propose peut-être aussi un hommage avec ce qui vient de se passer, ce texte de Brel.
Un jour le diable vint sur terre. Un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre. Ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre. Ça va. Les trains déraillent avec fracas parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession, des confessions sans rémission. Ça va. Rien ne se vend mais tout s'achète, l'honneur et même la sainteté. Ça va. Les états se mutent en cachette, en anonyme société. Ça va. Les grands s'arrachent les dollars venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations. Ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris. Ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris. Ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va, ça va.
Donc aujourd'hui, nous avons réuni Paul Nizan et Marilyn Débiol avec le souhait que Marilyn Débiol écrive un livre sur Paul Nizan. Bon, ça, c'est pas gagné, mais bon, Nous, on vous conseille, en attendant la sortie du prochain livre de Marilyn Debiol, de lire tous ses livres, en commençant par La Sèche, en continuant par Ceux qui reviennent, Dans la route. Chaque fois, c'est des livres grande sensibilité. Pour moi, c'est une femme extrêmement généreuse. Elle a le don d'être sensible aux différences. Elle a le goût des existences, je dirais ça, voilà. Des existences, mais des existences qui sortent un peu de l'ordinaire, mais d'un ordinaire que nos yeux ne voient pas.
Ouais, c'est son regard qui les fait sortir de l'ordinaire, justement.
Voilà. Elle a une prose qui est qui est très très belle par rapport aux écrivains d'aujourd'hui, moi je trouve. Enfin, moi je suis une grande admiratrice. De Paul Nizan, vous conseille de lire Aden Arabi, avec la préface de Jean-Paul Sartre, qui est magnifique et qui exprime beaucoup la culpabilité de tous les intellectuels de l'époque par rapport à son œuvre. Et voilà.
Et donc, dans le Cheval de Troie, il y a une très belle préface aussi de Pascal Horry.
Voilà, donc au revoir à tous et à la prochaine fois. On vous remercie de nous avoir écoutés.
Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.